Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Une belle histoire d'amour aujourd'hui, qui malheureusement se termine tragiquement. La belle histoire du boxeur Marcel Cerdan et de la chanteuse Édith Piaf, que j'ai écrite en m'appuyant sur un livre paru aux éditions Acropole, Le bel amour de Frédéric Perrault. Une histoire que nous allons débriefer ensuite avec vous, Bernard Marchois, bonjour.
Bonjour.
Vous avez connu Édith Piaf, jeune, très jeune, hein ?
Oui, trop jeune, mais j'avais 17 ans.
Et son destin vous a à ce point passionné que vous avez racheté l'un de ses appartements, rue Crespin-du-Gast, dans le 11e arrondissement de Paris, où vous avez fait un musée consacré à Édith Piaf, dans lequel vous exposez beaucoup d'objets qui lui ont appartenu. Robes, chaussures, affiches, photos.
Oui, disques d'or, vêtements de ville aussi également, vêtements de scène.
L'objet le plus personnel que vous ayez d'Édith.
C'est la petite robe noire.
La petite robe noire.
C'est le symbole de Madame Piaf.
À tout à l'heure Bernard Marchois, voici Le bel amour d'Édith et de Marcel, une histoire que j'ai écrite avec Marinette Lévy, réalisation Céline Lebras.
14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1.
Je vous emmène au Club des Cinq, un cabaret de la rue du Faubourg-Montmartre à Paris, une nuit de mai 1946, vers 4h du matin. Vous voyez la jeune femme qui vient de descendre du taxi? C'est André Bigard, dit Dédé, la secrétaire d'une jeune chanteuse qui se produit au cabaret pour un mois, Édith Piaf. Elle est venue la chercher pour l'empêcher de boire, de passer le reste de la nuit au comptoir à picoler. Bonsoir Gaston. Bonsoir Madame Bigard. Mademoiselle est au bar, je crois près du comptoir. À l'intérieur, il y a du velours partout, sur les murs, les chaises, les banquettes. Au Club des Cinq, c'est amusant, on ne choisit pas sa place. C'est Joe Longman, le patron, qui décide où vous vous mettez. Les vedettes devant la scène, derrière les étrangers, les Espagnols au fond, ils sont trop bruyants. À droite, les Parisiens anonymes et à gauche, les provinciaux. Et donc près du bar, accoudé, Édith Piaf. T'es déjà là? Quelle heure est-il donc? Il est passé 4 heures, Édith. Oh, c'est drôlement tôt. Je peux rentrer toute seule pour une fois, non? Je te rappelle que tu es enrhumée et que demain nous avons une répétition chez Pathé Marconi. Et Bébert, j'ai chanté du nez ce soir? Ah non, mademoiselle Édith. Alors, t'as vu? Allez, viens. Faut que tu te reposes. Tu parles d'une secrétaire? Si j'avais su que j'avais engagé une bonne d'enfant, bon, bah je finirais pas mon americano. Dehors, le taxi les attend. Tu as l'air de bonne humeur, Édith. Ah oui? C'était une bonne soirée. Il y avait une bonne ambiance. Jean Cocteau est venu. Et puis j'ai vu Marcel Cerdan. Le cycliste? Oh, le cycliste, ce que t'es gourde, le boxeur. Et il t'a tapé dans l'œil, c'est ça? Penses-tu? D'abord, il est marié, et sa femme était là, Marinette, une jolie brunette. Cela dit, il a intérêt à le garder à l'œil, hein, vu le coup d'œil que lui jettent les femmes. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'avait déjà entendu chanter, figure-toi. Tu sais, au 47, dans l'escalier où je vais répéter quelquefois pour être tranquille. Il m'a entendu de la rue, il m'a dit qu'il est entré, qu'il m'a écouté. Il m'a dit que j'avais une belle voix. Un an plus tard, à l'automne 1947, Édith et son nouveau manager, Loulou Barillet, débarquent à New York à bord du paquebot Queen Mary. Ils s'installent à l'hôtel Ambassador, au cœur de Manhattan, et dès le lendemain, ils vont répéter au théâtre que Loulou a réservé, le Playhouse Theater, au cœur de Broadway. En rentrant à l'hôtel le soir, Édith trouve un message de l'une de ses vieilles amies, la chanteuse Lucienne Boyer, qui est à New York, elle aussi. Bienvenue dans le Nouveau Monde, je t'invite demain à une petite garden party dans les environs de New York. Ça te dirait? Signé Lulutte. La garden party a lieu dans un petit restaurant français chez Jean French Cooking. Ah, oh, t'as bien fait de m'inviter là, ma Lulutte. Ça me remonte le moral. 2 jours qu'on vient d'arriver, je suis déjà neurasthénique. Je ne fais pas à leur cuisine. J'ai le cœur qui remonte jusqu'à la glotte. Rien qu'à voir ce qu'on me sert au petit-déj. On les conduit à une table. Et là, qui se lève ? Marcel Cerdan.
Oh ! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ?
Ben, j'étais à Montréal et j'ai gagné.
Vous avez gagné quoi ?
Ben, mon match. Un KO au premier round.
Vous faites quoi dans le coin ?
Je m'entraîne. Je rencontre l'Américain bientôt, dans une dizaine de jours, le 31.
Oh ben ça alors ! Pour un hasard, c'est un hasard !
Le déjeuner passe, elle très à l'aise, lui un peu pâteau, et puis... Ça vous dirait qu'on dîne un soir, Edith ? Deux Français seuls à New York ?
Hé, c'est pas le moment de vous laisser distraire, hein ? Gagnez votre combat d'abord !
Bon, d'accord. Si je gagne, je vous rappelle. Il la rappelle le soir même à l'hôtel Ambassadeur. Et elle accepte. Il l'attend dans le hall de son hôtel, chapeau de feutre légèrement incliné. Elle arrive en manteau d'astrakhan.
Alors, il m'emmène où ?
J'ai pensé, enfin, si ça vous fait plaisir.
Où tu veux, mon Marcel, hein?
Je te suis où tu veux.
Oh, quelle est belle ta voiture bleue.
Une Cadillac.
Avec chauffeur, Mazette.
C'est Joe Rizzo, c'est un vieux copain. Il connaît New York comme sa poche. Vous allez voir, Edith. C'est un cousin de Joe qui tient le resto. C'est le meilleur italien de New York.
Et il l'emmène dans un rad. Un restaurant de boxeurs à toile cirée.
Bah, dis donc. Des boxeurs, quand ils gagnent un match, me dis pas qu'ils viennent ici. Ils ont pas de vrai restaurant à New York. Écoute, mon gros Marcel, j'ai trimé toute la journée en répétition. J'ai la dent creuse, tu vois, alors trouve-moi un resto bien chauffé, avec des loufiers en gants blancs, des nappes avec de la dentelle et de la musique, enfin, qui t'escanne pas les esgourdes. Ça doit se trouver, ça.
Heureusement que le copain Rizzo est là. Il les emmène alors au Gourmet, sur Lexington Avenue.
Eh ben voilà ! Quand tu veux, on n'est pas bien ici.
D'après ce qu'on sait, le dîner s'est bien passé. Mais avant de se revoir, ils ont chacun à affronter l'Amérique. Ce soir, Edith chante à Broadway, au Playhouse, sur la 48e.
Il y a du beau monde, hein. Des Français de passage à New York, comme Charles Boyer ou Jean Sablon. Et puis des Américains, Bette Davis est là, Ginger Rogers est là aussi, Josephine Baker, Marlène Dietrich.
Le concert commence avec les compagnons de la chanson. Dans la salle, la plupart des gens ne comprennent rien, mais la drôlerie des compagnons fait mouche. À la fin de la prestation des compagnons de la chanson, Edith rentre sur scène. Ils se mettent en cercle autour d'elle. Après, elle enchaîne avec son propre tour de chant. La vérité, eh ben, c'est que le public a préféré les compagnons de la chanson. Avec elle, il a été un peu froid, quoi. Et la critique est sévère, hein. Un journaliste écrit « Edith Piaf est une petite bonne femme charnue, à la grosse tête, aux yeux lourdement chargés de mascara, avec une bouche faite pour avaler d'un seul coup un quart de jus de tomate. » Loulou Barrier, le manager d'Edith, doit la consoler.
Ils sont décontenancés, Edith. Ils sont un peu comme des enfants qu'on met devant un Picasso en leur disant c'est un chef-d'œuvre, tu vois. Ils sont perplexes. Et puis, ben c'est presque de l'opéra que tu chantes, hein. Et le problème, c'est qu'on est dans un musical. Pour eux, la chanson française, c'est Maurice Chevalier, c'est Mistinguette, c'est charmant, c'est léger, c'est drôle. Et avec toi, ben, ils découvrent qu'une chanson, ça peut être pas marrant, tu vois. Tu dois les habituer à toi, Edith. Hein? Tu,
toi les habitués à tes chansons, à ta façon de chanter. Alors tu retournes au charbon.
À peu près au même moment, Marcel Cerdan joue sa peau sur un ring de Chicago. Il a gagné ses deux derniers combats. S'il gagne ce soir, il aura droit à un championnat du monde. C'est comme ça que c'est convenu avec la Fédération internationale de boxe. Ce soir, il affronte un Estonien installé depuis 10 ans aux États-Unis, Anton Radik. Et lui, il n'est pas trop dans son assiette. Il est un peu malade. Premier round, Cerdan répond avec intelligence aux premiers assauts de Radik. L'autre rejoint son coin un peu dépité. Deuxième round, Cerdan balance une dizaine de crochets à Radik. Bim! Bam! Radik est submergé. Son œil gauche enfle. Son arcade se fendille. Le sang coule. Mais au quatrième round, Marcel subit. Au cinquième aussi. Et Radik remporte le sixième round. Égalité au septième. Au huitième, bim! Bam! Cerdan touche 6 fois, 6 crochets. L'autre est toujours debout. Au neuvième round, Cerdan est épuisé. Il est ballotté. Au dernier round, il met un genou à terre. L'arbitre se met à compter. L'autre se relève. Nouveau crochet. Cerdan tombe. Mais il n'est pas KO. Il ramasse son énergie. Il est debout, adossé aux cordes. Il prend un direct du gauche. Bim! Sauvé par le gong. Il a gagné. De justesse, mais il a gagné. Victoire au point. Son manager, Lucien Roup, le récupère au vestiaire, complètement groggy, un somnambule. Il arrive et il se met à dégueuler. Intoxication alimentaire, figurez-vous. Ou alors, empoisonnement. Son manager y songe. Quoi qu'il en soit, quelques jours plus tard, le président de la National Boxing Association annonce que Marcel Cerdan va concourir pour un titre de champion du monde des poids moyens. Finalement, au Playhouse Theater, ça ne va pas si mal pour Edith. Un article élogieux vient de paraître dans le New York Herald Tribune.
Hé, écoutez ça. Mademoiselle Piaf m'a fait forte impression par l'authenticité de son répertoire. Écoutez, écoutez, ne commettons pas l'impair d'ignorer Edith Piaf et rendons-lui l'hommage qu'elle mérite. C'est bien ça, non?
C'est très bien, même si les compagnons de la chanson l'ont un peu éclipsé. On vient d'ailleurs de leur proposer une tournée en Floride, qu'ils y aillent. Elle, on lui propose de prolonger son séjour dans une autre salle de New York, le Versailles. Nous voilà donc au Versailles le 14 janvier 1948. Il est 22h, la salle un peu rococo est pleine à craquer. Edith est là, juchée sur une estrade dans une petite robe noire. Elle veut les conquérir. Elle veut les emballer.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas.
Et elle a gagné. Elle tient sa revanche. À la fin du spectacle.
Bonjour, mademoiselle Edith. Oh, passez-moi, Marcel, en revenant.
Marcel Cerdan l'invite à son prochain combat. Et elle accepte. Elle a adoré. Ses poings qui tapent comme des masses, son regard de dur, son souffle de locomotive, et surtout ce moment où, après la victoire, il redevient calme, doux, apaisé. Après la rencontre, elle lui dit
« Je te veux pour moi toute seule. »
Et ils sont rentrés à Paris ensemble, côte à côte dans l'avion. À Orly, les photographes les attendaient, ils les ont immortalisés, tout sourire, sur la passerelle. ils ont tous les deux séduit l'Amérique. De retour à Paris, ils s'installent ensemble au 7 rue Lecomte de Lille, dans les beaux quartiers, dans le 16e, l'appartement où Edith vient d'emménager.
Tu verras, Marcel, on sera bien ici tous les deux.
Mais le problème, c'est que Marcel est marié à Marinette. Elle vit à Casablanca, au Maroc, avec les enfants. Et donc pas question qu'une photo avec Edith sorte dans la presse. Officiellement, ils sont amis, très amis, rien de plus.
Dis Marcel, quand on sort en voiture, bah t'as qu'à te coucher sur la banquette arrière. Ce sera marrant, non?
Le cache-cache avec les photographes devient un jeu. En tout cas, depuis qu'Edith vit avec Marcel, ça l'a changé. Elle s'est assagie. Dans la journée, chacun va de son côté, elle répète, lui s'entraîne. Le soir, il y a une sorte de décalage, hein. Elle est couche tard et lui lève tôt. Mais surtout, Marcel est fasciné par tout ce qu'elle sait.
Qu'est-ce que tu sais comme chose, Edith? C'est dingue, hein? Tu crois que l'intelligence, ça s'apprend? Il suffit de le vouloir, mon Marcel. Si tu crois que j'ai eu mon certif, moi.
Du coup, Edith charge l'un de ses amis, philosophe et poète, Jacques Bourgeat, le secrétaire de la Bibliothèque nationale, de faire l'éducation de Marcel. Marcel ne lisait que Pim Pam Poum, la bande dessinée. Il se retrouve à lire de la littérature. Et l'autre l'emmène visiter le Louvre pour lui faire connaître la peinture. Et Edith elle-même, qui est un peu bigote, le traîne à l'église d'Auteuil, juste en face.
Il faut que tu pries les saints, Marcel.
Mais qu'est-ce que je dois leur demander?
D'abord, tu ne demandes rien pour toi, hein? Tu penses d'abord aux autres. Et surtout, tu n'oublies pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle me suit partout depuis ma naissance. C'est elle qui me protège. Et maintenant, c'est elle qui te protège aussi.
Marcel Cerdan est champion d'Europe en titre. Il est tenu, bien sûr, de remettre son trophée en jeu. On lui a désigné un adversaire, un jeune Belge du nom de Cyril Delannoy. La rencontre est prévue au stade du Heysel, à Bruxelles. Le ring est au milieu du terrain, 20 000 spectateurs s'entassent sur les gradins. Pour la presse, Cerdan est favori. Mais en vérité, il n'est pas en forme en ce moment. Il souffre d'un lumbago et il a mal à la main droite. Mais chut, les journalistes ne doivent rien savoir. C'est parti. Le Belge n'a pas du tout l'air impressionné. Pendant les trois premiers rounds, il domine. Cerdan se réveille au quatrième, et dans le sixième, le septième et le huitième. Il refait son retard. La fin du combat est nettement à l'avantage de Cerdan. Au quinzième round, les deux boxeurs sont épuisés. Ils mobilisent toute leur énergie. L'arbitre doit sans cesse les séparer. Le gong annonce la fin du match. Ils regagnent chacun leur coin. Marcel regarde son manager. Il est certain d'avoir gagné. L'arbitre les appelle au milieu du ring.
À la majorité des juges est déclaré vainqueur et champion d'Europe, Monsieur Cyril Delannoy.
Cerdan pleure. Il pleure à grosses larmes. Il a honte. Il n'a pas été à la hauteur alors que son manager peste contre l'arbitre. Une semaine plus tard, France Dimanche annonce en manchette « Piaf a porté malheur à Cerdan ». L'article est un article de faux cul à la France Dimanche. Il ne dit pas qu'ils sont amants, mais il faudrait être aveugle pour ne pas le comprendre. Depuis son retour d'Amérique, Cerdan voit tous les jours Edith Piaf. Elle va à tous ses matchs. Il va tous les soirs l'écouter chanter. Piaf est pour Cerdan une femme attirante au sens où elle lui parle musique, littérature, poésie et que c'est nouveau pour lui qui est devenu mondain. Et Marinette à Casablanca, qu'est-ce qu'elle va penser, hein? Un conseil de guerre est organisé autour de Lucien Roupe, le manager de Marcel.
Il faut que tu quittes Paris, Marcel. Faut que tu t'éloignes d'Edith. Que tu retrouves le calme, sinon tu seras jamais champion du monde, jamais.
Ils lui ont concocté un programme d'entraînement à Luchon. Et en attendant, Marcel, qui a eu une conversation orageuse avec sa femme au téléphone, rentre à Casablanca.
Tu me jures qu'il n'y a rien entre toi et cet Édith Piaf? Je suis la rissée de tout Casablanca, Marcel. Je suis humilié. Marcel, jure-moi que c'est pas vrai.
Je te le jure, Marinette. Je te le jure sur la tête des enfants. Édith n'est qu'une amie, c'est une grande amie. Mais toi, tu es ma femme. Viens dans mes bras, ma Marinette. À Paris, ses amis ont décidé de se venger contre France Dimanche. Ils débarquent dans le bureau du rédacteur en chef et ça dégénère en bagarre. Lucien Roupe s'est chargé de négocier un match de revanche. Même stade, mêmes adversaires, même enjeu. D'entrée, Marcel domine le match. Il envoie trois fois le Belge au tapis. Au huitième round, son point droit le lâche. Il ne boxe plus que d'une seule main. Et pourtant, droite de Cerdan, nouveau tapis. Et à la fin, Cerdan, qui n'a pas perdu une seule reprise, redevient champion d'Europe. Le 21 septembre 1948, l'agence France-Presse annonce Marcel Cerdan sera opposé à l'Américain Tony Zale pour le titre de champion du monde des poids moyens. Cerdan débarque à New York le 24 août. Édith le rejoint le lendemain. Elle s'installe dans un bungalow près du camp d'entraînement. Elle s'est cachée dans le coffre de la voiture pour échapper aux journalistes. Le 21 septembre 1948. Voilà Édith sur les gradins du Madison Square Garden de New York.
15 rounds for the middleweight championship of the world. Introducing from Casablanca, Morocco, wearing white trunks, weighing 158, Marcel Cerdan.
Cerdan entame très bien son match. Édith a les yeux fermés. Elle prie. Au troisième round, Zale revient dans le combat. Cerdan accuse le coup. Il contre-attaque. Mais Zale frappe de plus en plus fort. Bim, bam, une droite qui touche Cerdan au menton. Édith, elle, prie Sainte-Thérèse. À la fin du onzième round, Zale titube. Et d'un coup, il s'effondre. L'arbitre s'approche de Cerdan. Il se penche à son oreille. Il vient de lui dire qu'il a gagné. Par KO, à la 12e reprise, Marcel Cerdan est champion du monde. Après le titre, les deux amants profitent une petite semaine de New York. Et puis Marcel rentre en France, seul. Il est accueilli en héros. Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, un tour de France de gloire. Et puis il rentre à Casablanca, retrouver Marinette et ses trois fils, pour Noël. Et Édith demande à son manager d'organiser un concert à Casablanca. Et Marcel est là, avec sa femme Marinette.
On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène en marchant de marron, une chambre au cinquième étage.
Et après le concert, ils invitent Édith chez eux. Marcel lui fait visiter son domaine. Il ne veut pas choisir entre Édith et Marinette. Il les veut toutes les deux.
Jake LaMotta challenges French idol Marcel Cerdan for the World Middleweight Championship. Detroit, 16th of June 1949.
À la mi-mai, la Fédération mondiale désigne à Marcel un nouveau challenger pour le titre mondial. Un certain Jack LaMotta. Le combat a lieu le 16 juin aux États-Unis à Detroit. Édith est resté à Paris. D'entrée, Cerdan se retrouve coincé dans les cordes. Bim, bam, Marcel pisse le sang au niveau du nez. Bim, bam, une arcade sourcilière est touchée. Marcel se relève un peu dans le deuxième round, mais après, il s'effondre round après round. Il ne parvient pas à revenir. Il jette l'éponge, il abandonne. Il n'est plus champion du monde. Mais Cerdan veut rebondir. Il propose à LaMotta un match de revanche. Jack LaMotta traîne un peu des pieds, mais finalement il accepte. OK. OK pour le 2 décembre 1949. Un mois avant, le 27 octobre, Marcel Cerdan arrive à l'aéroport d'Orly. Edith, elle, est déjà à New York. Dans le hall de l'aérogare, les photographes sont là.
Monsieur Cerdan ! Monsieur Cerdan ! Marcel ! Marcel, par là ! Par là !
Il serre des mains, il signe des autographes, il offre une tournée de champagne au bar. Et à 20h54, le Constellation qui l'emmène vers New York décolle. Ça fait 3 jours qu'il fait mauvais sur l'Atlantique. Il est prévu de faire un stop aux Açores. Mais l'avion n'arrive jamais aux Açores. Un avion part en reconnaissance. Il aperçoit des débris sur l'île de São Miguel. La tour de contrôle de Santa Maria informe le siège d'Air France. Il n'y a aucun survivant. Par la radio, à New York, tout le monde est au courant. Mais pas Edith, parce qu'Edith dort. Et elle dort parce qu'elle veut être en forme pour accueillir Marcel. Alors elle a envoyé son manager, Loulou Barrier, le chercher à l'aéroport de LaGuardia. Il est 9h25. En principe, l'avion doit atterrir dans 5 minutes.
Il est où cet avion, putain? Y a rien d'inscrit. Mademoiselle, the plane from Paris, please. A moment, please. Monsieur, nous sommes désolés. Nous n'avons pas d'informations sur ce vol depuis plus de 9 heures. Nous sommes très inquiets.
Vous voulez dire qu'il faut envisager le pire?
Je crains, monsieur.
Ok, merci. Faut prévenir Edith. Ils prennent un taxi. Ils arrivent au pied de son immeuble à Manhattan. Ils toquent tout doucement à la porte. Edith est là?
Oui, elle dort.
La poignée de sa chambre bouge lentement. Elle vient de se lever. Elle est en robe de chambre, les cheveux en bataille.
Eh bien, vous en faites une tête. Et Marcel, il est où?
Il faut être courageuse, Edith.
Où il est, Marcel?
Son avion est porté manquant, Edith.
Mais enfin, c'est pas possible! Marcel retombe toujours sur ses pieds. Il doit être dans les survivants.
On apprend dans l'après-midi que son corps a été identifié. Un peu plus tard, Edith annonce à son manager.
Ce soir, je chanterai pour Marcel. Je lui dois, hein?
Le soir même, livide, Edith s'avance sous les projecteurs du Versailles.
Mesdames et messieurs, je chante ce soir pour Marcel Cerdan.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras,
c'est toujours difficile de parler sur Edith Piaf. Bernard Marchois, vous avez consacré une bonne partie de votre vie à Edith Piaf, puisque vous avez racheté l'un de ses appartements, créé un musée qui lui est entièrement consacré, où se trouve une partie de ses objets personnels. Il faut qu'on raconte un peu la suite, parce que la suite est très douloureuse. Là, c'est « The show must go on », c'est-à-dire que, comme beaucoup d'artistes, le soir même, elle ne trouve que l'énergie de chanter, en fait, c'est ça?
Oui, elle va effectivement chanter, elle va faire 2 chansons, mais la troisième, elle va avoir un malaise et elle va tomber en scène, quoi, évidemment.
Elle finira pas le concert.
Elle ne finira pas le concert, ce jour-là en tout cas.
Et elle sera pas aux obsèques de Marcel, à Casablanca?
Non, parce qu'elle a pas voulu que mêler sa vie privée et sa vie avec public. Marcel, public. Donc elle a voulu laisser à la famille le soin de lui rendre un dernier au revoir.
Et Marinette n'y est pas non plus à ses obsèques, c'est ça qui est terrible, parce qu'elle est dans le même état en fait.
Oui, ça n'a jamais été très facile, et puis Edith a réussi par la suite à prendre des contacts avec Marinette.
On en dira un mot tout à l'heure. Ouais. Restons dans ce qui se passe juste après. Edith choisit de continuer de chanter à New York pendant plusieurs semaines après la mort de Marcel. Elle a un contrat, elle l'honore.
Oui, absolument, oui. Mm. Elle y restait d'ailleurs plusieurs mois.
Plusieurs mois.
Lorsqu'Edith partait aux États-Unis, elle y allait pratiquement pour 8 mois.
Il y a une scène terrible quand même à la fin de ce séjour aux États-Unis, tragique. Elle se rase les cheveux, elle s'automutile, elle est au fond du trou.
Elle qui avait une coiffure, une chevelure assez jolie, très belle, et là elle s'est fait couper les cheveux très courts à l'époque.
Un carnage.
Oui.
C'est le signe qu'elle va très mal.
Absolument, absolument. Mmh. Il y a eu d'ailleurs une tentative de suicide.
À New York ?
À New York, oui.
Pendant ce séjour ?
Oui.
Elle boit, j'imagine ?
Elle a toujours mené un petit peu une vie de bâton de chaise, Edith, depuis sa plus grande enfance, surtout dans ses premiers temps de vedettariat. Tant qu'elle était la Mon Piaf, ou déjà la jeune Edith Piaf, bon, elle avait un tas de copains et donc il faisait la fête très souvent. Mais là, évidemment, l'alcool faisait peut-être passer des souffrances qu'il lui était impossible de surmonter.
On dit que c'est à ce moment-là qu'elle découvre la morphine, qui va ruiner le reste de sa vie, si je peux dire.
C'est-à-dire que la morphine est surtout venue par une prescription médicale, parce qu'elle était atteinte d'un ulcère à l'estomac. Et son médecin lui avait dit, pour ne pas souffrir, parce qu'elle voulait chanter tous les soirs, ça c'était obligatoire.
Quoi qu'il arrive.
Quoi qu'il arrive. Et il lui avait donc prescrit de la morphine. Et bon, bah, on avait une dose, et puis après on en met deux.
Et puis on décroche
trois,
plus.
Voilà, vous connaissez le processus.
Alors elle rentre à Paris en février 1950, complètement défaite. Elle a réussi à ce que les journalistes ne soient pas à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Et alors là, il se passe un truc, elle se procure un guéridon. Il faut que vous nous racontiez ça. En fait, elle va se lancer dans le spiritisme.
Oui, tout à fait.
Pour continuer à parler à Marcel.
C'est-à-dire qu'elle était arrivée donc chez elle à Paris et complètement déboussonnée de tout, ne mangeant plus, ne voulant plus travailler. Enfin bon, vraiment, la chute la plus complète. Et son entourage lui dit, mais Edith, il faut réagir, Marcel, s'il te voit là-haut, enfin bon, il ne sera pas content de ce que tu fais ou que tu ne fais pas. D'ailleurs, et quelqu'un a l'idée, si tu veux, on va rentrer en relation avec lui. Donc, à grands frais, on achète un guéridon, et voilà comment les soirées se passaient. Alors donc, bien sûr, c'était du bluff, hein. C'est quelqu'un qui tapait sous la table, mine de rien. Enfin bon.
On dit qu'à ce moment-là, il y a tout un tas de charlatans, en fait, qui se mêlent à ces soirées et qui font dire à Marcel Cerdan « Donne donc 1000 balles à machin, achète donc un manteau de fourrure à celle-là, etc.
Voilà, » Et l'autre avait besoin d'un costume, il s'en faisait payer. Hein.
Et c'est Marcel, toujours, qui disait ça à distance.
Il y a une très jolie anecdote, d'ailleurs, c'est qu'un jour, le guéridon avait été monté dans un étage et quelqu'un le réclame en disant « Allez, il faut faire tourner l'étape. » Peut-être qu'ils avaient besoin de quelque chose aussi ce jour-là. Et donc Roland Avelis, qui était le fou de la reine, si l'on peut dire, va chercher le guéridon et il loupe la dernière marche et tombe et s'écrase le nez sur le guéridon. Et il dit, mais dis donc, il a encore une sacrée droite, Marcel. Hein.
Extraordinaire. C'est à travers le guéridon, dit-elle, hein, que Marcel va lui écrire la chanson bleue.
Oui, enfin là, il y a plusieurs versions, donc on prendra celle qui fait le plus plaisir. Moi, j'ai la version qui serait la version officielle, que Simone Berthaud, qui donc était l'amie d'enfance d'Edith, avait commencé à écrire une chanson, en se disant peut-être qu'Edith me la chantera. Alors donc voilà, comment la chanson serait née, mais bon.
Ouais, il vaut mieux qu'elle soit écrite par le guéridon pour qu'elle l'accepte, en tout cas.
Voilà, en tout cas, c'était ça, le but.
Et alors, elle finit donc par aller à Casablanca rencontrer Marinette, et elles deviennent amies. Vraiment.
Absolument.
C'est incroyable.
Oui. Edith ne voulait absolument pas que Marinette apprenne par le public, par les médias.
Et par France Dimanche.
Et par France Dimanche, ce qui avait été leur relation exacte, intime. Donc elle se fait faire un contrat à Casa, et de là, elle va revoir Marinette, puisqu'elle se connaissait quand même, et elle lui avoue, là, à ce moment-là, voilà Marinette, ce qui se passe, et je veux que vous le sachiez de ma part, de ma propre voix, voilà ce qui s'est passé.
Et Marinette l'accepte ?
Et Marinette lui a répondu, mais Edith, c'est pas grave, nous, les femmes africaines ou même françaises, marocaines, mais bon, on a l'habitude, on est là pour faire des enfants, pour faire la lessive, pour faire
elle était résignée, la Marinette.
Absolument. Et elle dit à Edith, si ça n'avait pas été toi, ça en aurait été une autre. Donc je préfère que ce soit toi. Au moins, tu es franche avec moi et tu l'as été avec Marcel.
C'est une belle histoire, ça, dans l'histoire.
Et Edith va demander à Marinette, pour se racheter un petit peu de ce qu'elle
de
pense
cette
être voilà, oui. la cause de la mort, elle va demander à Marinette si elle peut prendre les enfants à Paris, en France, pour leur donner une éducation jusqu'à leur majorité. Et c'est ce qui va se faire.
J'ai bien sûr été très frappé par la première scène de mon histoire au Club des Cinq. Il y a donc là Dédé, André Bigard, la secrétaire d'Edith Piaf, qui vient la chercher à 4h du matin pour pas qu'elle picole toute la nuit. C'est un personnage qui a beaucoup compté, ça, Dédé, dans la carrière de Piaf.
Oui, énormément, parce que Dédé Bigard était la secrétaire du duc de Mirepoix, s'il vous plaît, c'était déjà pas mal. Et Raymond Asseau avait vu qu'Edith allait quelquefois à la dérive, et donc il avait décidé de lui donner une secrétaire, mais plus un garde-fou qu'une secrétaire.
C'était donc, sa nounou, quoi.
Oui, voilà, absolument, mais bon, elle essayait quand même à chaque fois de remettre Edith sur le droit chemin. Bon, elle y arrivait, quelquefois elle n'y arrivait pas, des fois elle s'engueulait comme c'était pas possible. Edith lui faisait la tête pendant 8 jours, et puis après elle disait, mais enfin... « Viens, qu'est-ce que tu fais je te vois plus. »
Ouais, elle revenait.
Bah, bien sûr.
Et elle a été là jusqu'au bout, Dédé ?
Ah oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Elle a toujours côtoyé Edith, en tout cas jusqu'à la fin, elle n'était plus sa secrétaire. Mais bon, après elle a eu Suzanne Flon comme secrétaire, la grande comédienne.
Ah bon ?
Oui.
Suzanne Flon a été la secrétaire d'Edith Piaf.
Absolument, oui.
Quelle a été la vie amoureuse d'Edith Piaf avant Marcel ?
Alors il y a eu beaucoup de passages, bien entendu. Beaucoup d'artistes, en fait, qu'elle a lancés faisaient partie de ses élus de cœur. C'était la condition sine qua non, je dirais presque. S'il avait une belle voix et une belle gueule, il devait faire une carrière.
C'était de la promotion canapé, mais dirigée par une femme, en fait.
Oui, voilà, bon, exactement.
Ça existe, donc.
Comme ils avaient, en fait, besoin, ces messieurs, d'un apport publicitaire... Tout le monde était d'accord. Hein.
Mais il n'y a pas de grand amour avant Marcel.
Il y en a eu. Il y en a eu, mais Edith a toujours dit qu'en fait, elle ne regrettait ni les uns ni les autres, qu'elle n'avait pas de mauvais souvenirs de certains. Elle a dit non, c'est ma vie, ça s'est passé comme ça.
Et après Marcel, il y aura d'autres belles histoires d'amour ?
Il y aura une belle histoire d'amour avec Jacques Pils, effectivement, qui sera donc lui son premier mari.
Ah oui, et les autres, elle ne les a pas épousés.
Non, elle a épousé que Jacques Pils pour commencer, puis ne se voyant pas ou peu, parce que lui avait une carrière mondiale également, donc toujours un...
C'est un chanteur, hein, Jacques Pils.
Oui, oui, c'est
ça. Il n'a pas laissé de traces, mais...
Non, il a chanté avec elle et sa gueule, sa madame, bon, enfin bon, il a laissé de bonnes chansons, mais enfin c'est fait pour les gens qui ont moins de 20 ans, ça. Donc voilà...
Et après
Jacques Pils, il y a eu quand même Théo Sarrapeau.
Ouais.
Qui a quand même été pour Edith quelque chose d'assez extraordinaire, un apport d'amitié mélangé d'amour, mais d'amour maternel, pourrait-on dire. Pour moi, ça a été un peu l'enfant qui protège sa mère.
Ouais.
Et ils avaient 20 ans de différence, donc c'est ce qui faisait un petit peu dire ça aux gens. Mais il a été absolument
mais pour vous, c'était de l'amour.
Extraordinaire avec elle.
Si on avait posé la question à Piaf à la fin de sa vie. Quel a été votre grand amour ? Elle aurait répondu.
Oh, c'était Marcel. Puisqu'elle avait avoué à Marinette, de toute façon, elle aurait dit c'est Marcel.
C'est Marcel.
Et puis, il n'y avait pas eu ses maris qui allaient venir. Mais bon, elle a été absolument. Elle ne voyait que Marcel en définitive, parce qu'elle dit c'est moi qui l'ai tué. Je lui ai demandé de venir, et non pas de prendre le bateau, mais de prendre l'avion. Et donc, il m'a écouté, il a pris l'avion, et c'est moi qui l'ai tué.
Une éternelle culpabilité, mais...
Voilà, donc, dans ces cas-là, on idolâtre cet amour.
Bien sûr.
On ne sait pas si ça aurait duré, dans un contexte normal.
J'adore la scène du dîner en tête-à-tête, parce que lui, il l'amène dans un rat de boxeur, où sans doute le pastrami est très très bon, mais en vérité, elle préfère le luxe.
C'est pas ça. C'est qu'elle voulait, ce jour-là, lui faire voir qu'il invitait Madame Piaf, et que Madame Piaf, on ne l'invite pas, dans sans même rad. Savoir si elle aime bien les fast-food. Voilà, les fast-food, mais... Oui. Donc voilà.
Donc elle n'aimait pas le luxe. Quand elle dit les loufias aux gants blancs, tout
vous
ça...
Vous auriez vu son appartement du boulevard Lannes, 264 mètres carrés, s'il vous plaît, un hall de gare.
Oui.
Bon, tout était comme ça.
Ouais, elle n'aimait pas le luxe. Bon, ça, c'est rassurant.
Oui, oui.
Son premier concert au Playhouse, on a du mal à croire qu'elle a été éclipsée par les compagnons de la chanson. C'est pas faire un jour aux compagnons de la chanson, mais enfin, c'est une chorale. Ça n'a pas la profondeur d'Edith Piaf. Mmh. C'est léger.
C'est ce qu'aimaient les Américains au départ. Et puis, après cet article, justement, ils se sont dit, mais de grandes vedettes sont venues. Hein, Marlène Dietrich, Bette Davis sont venues écouter Edith. Et en quelques jours, tout le monde s'est dit, mais non, mais c'est extraordinaire ce que fait cette femme. Voilà.
Elle n'était pas vraiment à sa place dans un endroit qui n'était pas pour de la chanson classique, qui était un endroit pour s'amuser, finalement.
Oui, là, c'était un cabaret, en définitive, le Versailles. Et il y avait un handicap, c'est que Edith, à l'époque, ne parlait pas l'anglais. Et ne le chantait pas. Donc, ce qui veut dire que quand elle a vu le bide qu'elle se faisait, malheureusement, ils lui ont mis un homme de cérémonie qui était à côté d'elle tout le temps et qui venait expliquer au micro ce qu'elle allait chanter. Alors, est-il de vous dire que pour casser les pattes à un artiste, à un tour de chant, il n'y avait pas pire. Alors, Edith a dit non, ça va plus. Moi, je rentre en France, ils ne me comprennent pas. Et quelqu'un lui a dit, mais Edith, essaye de chanter quelques chansons en anglais, tu les apprends phonétiquement, et apprends quelques mots aussi comme ça, et comme elle était d'une intelligence assez extraordinaire, elle a tout de suite appris des chansons, elle a parlé l'anglais, au bout de quelques semaines, elle se débrouillait très bien.
Et elle s'est mise à chanter un peu en anglais, à traduire une partie de ses chansons, La Vie en Rose par exemple,
absolument.
Elle l'a traduit.
Voilà, et donc ils ont viré l'homme de cérémonie.
Moi, j'aime bien l'image qui est utilisée par Loulou Barillet, qui lui dit, c'est un peu comme un enfant qu'on met devant un Picasso, à qui on dit c'est beau. Il comprend pas, et c'est normal. Ben et oui. C'est un peu ça qui arrive à ces Américains qui découvrent cette chanteuse qui est tragique, en fait.
Edith, en fait, les a éduqués un petit peu à sa manière. Et après, ils ont eu des Bette Davis, ils ont eu un tas de gens comme ça qui ont été assez extraordinaires.
Alors, au fond, Edith n'est que la maîtresse de Marcel. Marcel, finalement, est un homme, j'allais dire de sa génération, non, est un homme éternel qui voudrait avoir à la fois une femme et une maîtresse. Rien d'original là-dedans. Mais comment le supporte-t-elle, elle? Elle aurait voulu l'avoir tout entier? Elle l'exige, elle le demande?
Oui, elle était très exigeante. Nous avons au musée toutes les lettres qu'Edith et Marcel se sont échangées. Qui a d'ailleurs fait l'objet d'un livre. Et Edith, combien de fois ne l'attrape-t-elle pas en lui disant « Oui, où est-ce que tu étais ? J'ai essayé de t'appeler. Ou alors je t'ai écrit, mais tu ne m'as pas répondu. Je t'ai envoyé deux lettres et toi aucune. » Il avait fait, Marcel, une interview avec une plantureuse beauté blonde à New York. Et Edith en a appris l'existence. Donc elle lui a fait...
Vous voulez dire qu'il avait... Encore d'autres maîtresses.
Bien sûr.
Enfin, c'était un homme, quoi. Un boxeur, un mâle dominant.
Un mâle dominant, mais bon, qui nous dit, parce que là, moi, j'ai pas suivi l'affaire, qui nous dit qu'Edith n'en faisait pas elle aussi. Bon,
vous avez des infos, vous n'en avez pas.
On sait que il y a eu des petits coups de canif.
Ah.
Des petits coups de canif de la part d'Edith, parce que bon, il était parti pendant 2-3 mois, elle ne le voyait plus. Où elle ne le voyait pas parce qu'il était dans ses tournées de boxe. Et donc, il y a eu des petits trucs comme ça. Faut bien que jeunesse se passe.
La révélation de leur histoire par France Dimanche, lui, évidemment, ça le met dans tous ses états parce que c'est tout ce qu'il cherchait à éviter. Mais elle, qu'est-ce que ça lui fait, en fait? Elle est plutôt contente, sans doute, non? Que ça se sache?
Non.
Non.
Je pense pas, non. Parce qu'elle avait quand même pour lui vraiment un véritable amour. Bon, qu'il soit devenu idolâtré après, bon, c'est une chose, mais elle l'aimait vraiment beaucoup.
Donc si ça le touchait lui, ça l'a touché elle.
Voilà, et il y a même cette anecdote où un jour Marcel lui dit « Edith, je suis trop bien avec toi, tu le sais, on est en pleine osmose tous les deux, si tu le veux, je vais divorcer et je t'épouse ». Et Edith lui a dit « Non, il n'en est pas question ».
Ah. Alors,
très surpris, elle lui dit « Non, 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 il n'est pas question parce que… » Et là, elle ne pensait pas du tout à Marinette, elle s'en foutait complètement, mais elle a dit « Je ne veux pas faire trois orphelins
ah. ».
Ça, c'était la grandeur d'âme d'Edith. Elle préférait mettre un terme, si l'on peut dire, à son bonheur, plutôt que de faire trois enfants qui allaient ne plus voir leur père. Voilà.
J'ai trouvé très touchant ce moment où Marcel la trouve cultivée et où lui dit « Est-ce que ça s'apprend, l'intelligence ?» Elle l'était cultivée.
Oui.
Alors qu'elle n'a pas son certif.
Elle n'a rien, rien. Elle n'est pas allée à l'école.
Elle est cultivée d'où ? Par où ?
Et elle a compris quand elle est devenue la Môme Piaf, donc c'est en 1935 exactement, qu'elle avait des lacunes, dans tous les sens.
Elle les a comblées ?
Elle les a comblées en faisant venir chez elle des professeurs. C'est Raymond Asseaux surtout qui l'avait pris sous son aile et qui lui a dit « Edith, tu vas devenir une star mondiale, il te faut aller à l'école maintenant ». Et donc, elle a fait venir chez elle des professeurs de tout domaine. Et elle a appris très vite et très bien.
Ces deux années avec Marcel Cerdan sont-elles différentes sur le plan artistique parce qu'il était là ?
Oui. Oui, oui. Elle rayonnait de bonheur. Elle n'a jamais été aussi belle, Edith, qu'à l'époque de les deux années avec Cerdan.
C'est le sommet de sa carrière.
Ah oui. Pour moi, oui. Oui, oui, absolument.
Et après, c'est moins bien ? C'est plus douloureux ?
C'est plus douloureux. C'est beaucoup plus... c'est pas facile. On la sent malheureuse. Donc les textes de chansons vont avec, dans le coup. Alors qu'avant, c'était des textes de chansons...
un peu léger, quoi.
Voilà, léger, une valse, alors que là, c'est...
Ça devient une tragédienne.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Bernard Marchois, d'avoir partagé votre connaissance d'Edith Piaf. Elle était comment quand vous aviez dit... Vous étiez amoureux, vous ? À 17 ans.
Non, j'étais tellement ébloui que la première fois que je l'ai entendu chanter, c'était chez elle. Et j'étais assis, parce qu'il n'y avait plus de place, il y avait très peu de sièges, donc il n'y avait plus de place assise. Et moi, j'étais assis au pied du piano et elle a chanté les deux mains sur les hanches en me regardant.
Ah.
Et à la fin, elle m'a dit « Alors, ça t'a plu ?» Et j'ai fait. Alors, je fais le geste,
oui.
Mais bon.
Vous avez hoché la tête.
J'ai hoché la tête, je n'avais plus de voix.
C'était pas de l'amour, c'était de la fascination.
Ah oui, et puis c'est resté de la fascination.
D'un bout à l'autre.
Oui, tout à fait.
Votre musée au rue Crespin-Dugast, dans le 11e arrondissement, à Paris, se visite sur rendez-vous et tout ça se passe via Internet. Tous les renseignements sont là. Merci Bernard Marchois.
Je vous en prie et merci à vous.
Et si vous voulez retrouver ce livre dont je me suis inspiré, il n'est plus commercialisé aujourd'hui, il date d'un petit moment, mais vous le retrouverez sur les plateformes qui vendent des livres d'occasion. Ça s'appelle Le Bel Amour, c'est signé Frédéric Perroux aux éditions Acropole.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.